Bonsoir à tous, ici Campus FM 94 MHz, vous êtes dans l'émission La Fabrique, le deuxième jeudi du mois, donc aujourd'hui lundi 10 à 17h, en partenariat entre Attac Toulouse et Campus FM. Voilà, donc ce soir on va démarrer une émission de rentrée avec Majid qui est avec moi à la technique.
Bonsoir à tous.
Et cette émission de rentrée, on va aborder différents sujets, vous allez voir, on va parler de l'agenda, des mouvements sociaux, de l'agenda national et puis de l'agenda aussi du mois de septembre en particulier. Et on va développer un sujet qui nous semble important, qui est le pacte de stabilité monétaire européen. Et on aura des interviews, voilà, plein de choses, à tout de suite.
Je vous rappelle juste que donc cette l'émission est dans le cadre de Réminiscence l'émission et surtout qu'elle aura lieu une fois par mois en collaboration donc avec le collectif Attac. On revient donc tout de suite après ça. Voilà, donc c'était la fin du spot de manière trash et
calme. C'est la rentrée.
C'est la rentrée, on se met dans
Il
les bacs tout
doucement. Il faut se remettre, ouais, c'était un plaisir en tout cas d'être là. J'espère pour vous aussi, chers auditeurs.
Donc, Jean-Michel.
En introduction, moi j'avais noté deux rendez-vous importants là, pour le mois de septembre. Le premier, c'est la conférence gouvernementale sur l'environnement qui aura lieu le 14 et 15 septembre. Le gouvernement organise une conférence sur l'environnement à laquelle participent notamment les représentants des partenaires sociaux, des entreprises, des ONG concernées, des collectivités. Ces deux journées devraient être inaugurées par le président de la République et clôturées par le Premier ministre et s'articuler sur cinq thèmes: la transition énergétique, la biodiversité, la santé et l'environnement, la fiscalité écologique et la gouvernance. Alors évidemment, Attac s'implique dans cette démarche à travers le collectif Rio, qui regroupe plus de 25 associations, hein, et syndicats et organisations concernées par l'environnement. Ces associations avaient participé à la conférence des Nations Unies sur le développement durable. Et bon, il y a une première réunion le 6 septembre dernier, il ressort trois points qui sont pas forcément tous positifs, mais en gros on craint un processus minimal de discussion. Le gouvernement souhaitant garder la main sur trois dossiers importants que sont l'énergie, avec le maintien du nucléaire, la partie internationale et également les aspects, certains éléments du développement durable. Ensuite, il semble se mettre en place une grosse machine institutionnelle, probablement peu ouverte au débat démocratique. Bon, le questionnement, c'est quelles seront réellement la prise en compte des avis et des recommandations des partenaires sociaux. Et aussi avec la préparation d'une batterie d'indicateurs, on en connaissait 30 là, qui ont été préparés dans le rapport de Thierry Val, l'inspecteur général des finances qui a été chargé de cette préparation. Bon, ça fait partie des points qui nous inquiètent un petit peu à Attac. Et enfin, un point qui peut être intéressant, qui est une forme de pilotage environnemental des évolutions de la France, donc ça c'est très bien. Mais la question c'est quel type de pilotage, comment ce pilotage est modifiable ou pas, par quel type de représentant jugé légitime, quels éléments pris en compte au niveau du débat démocratique dans ce pilotage à l'avenir.
Jean-Michel, genre c'est pour faire bien ou c'est pour répondre à cette proposition de collaboration avec Europe Écologie Les Verts que le gouvernement maintenant parle d'écologie et se décide enfin de mettre ça au goût du jour pour la rentrée?
Je pense qu'après le Grenelle de l'écologie, qui avait été pas forcément un succès, en tout cas dans sa mise en œuvre ultérieure, le gouvernement a souhaite, je pense, de façon sincère, reprendre ce dossier-là et voir comment le réorienter. Probablement qu'on est, enfin, c'est sûr qu'on n'est pas allé assez loin au moment du Grenelle. Et donc, il réouvre un dossier. Maintenant, à travers les premières discussions qu'on a pu avoir, ce dossier est réouvert, mais pas forcément aussi largement qu'on souhaiterait. Donc bon, on va continuer à suivre cette préparation-là, à l'accompagner, et bon, ben, elle aura lieu le 14-15 septembre. Je suis sûr que peut-être dans Doréminiscence, soit le matin, ouais. Au niveau des émissions, des matinales ou autres, ouais. Tenir informé des évolutions. Voilà.
Il y a aussi, je rappelle aux éditeurs, en ce moment, donc, un accident qui est survenu sur la centrale nucléaire de Fessenheim, qui devait être fermée. Est-ce que c'est pas aussi un moyen d'évincer la réalité, le quotidien et...
Il y a toujours ce risque-là, hein, de faire un rideau de fumée et beaucoup de communication sur un dossier qui n'est. mais je pense pas, parce que, enfin, il semble clair quand même la transition écologique est plus aujourd'hui de l'ordre du débat communication. On sent que c'est un dossier d'avenir pour la pérennité économique de la France aussi, l'intégration économique avec les autres pays européens. Donc, des choses seront faites, inéluctablement. Bon, maintenant, quel type d'orientation seront effectivement prises ? On voit le recul sur le nucléaire, au moins en termes de déclaration et de court terme. Donc, faut se mobiliser et que chacun prenne sa part, hein, dans l'action citoyenne, hein, pour faire avancer le dossier avec ses élus, avec. Voilà.
Montebourg qui dit que l'énergie nucléaire est une énergie d'avenir.
Voilà, ça fait partie des points qui ont surpris, oui. Ouais. En effet.
D'accord. Donc le 14 et le 15 septembre.
Exactement. Donc tenez-vous informés, hein, ça c'est important. C'est un des deux gros dossiers du mois de septembre. Le deuxième, peut-être encore plus important, c'est le pacte budgétaire. Alors ratification ou pas ratification. Donc c'est l'objet un petit peu de cette émission maintenant, d'éclairer un petit peu les enjeux de ce pacte, de sa ratification potentielle dans les semaines qui viennent.
Le pacte budgétaire, en fait, c'est un pacte qui vise... un peu à l'austérité en fin de compte, sans le dire vraiment de manière claire et explicite.
Voilà, alors on va y venir, c'est un traité, hein, qui a été signé le 2 mars à Bruxelles par les chefs d'État et de gouvernement, par 25 États de l'Union Européenne. Son objectif principal, c'est de préserver la stabilité de la zone euro, clairement, et il prévoit l'application de règles renforcées en matière de lutte contre les déficits et l'endettement public, mais aussi accompagné de sanctions possibles contre les États, faisant preuve de laxisme dans ce domaine, c'est-à-dire ne maîtrisant pas leur déficit et leur endettement. Donc il y a 13 articles, enfin 16 articles répartis en 6 titres, on va pas tous les aborder, mais en gros, ce qu'on peut dire, c'est que l'objectif principal du traité, c'est de renforcer le pilier économique de l'union monétaire et économique de la zone. Le pacte budgétaire lui-même, ça veut dire un certain nombre de règles qui s'imposent aux États signataires. Ça veut dire que les États idéalement doivent avoir un budget excédentaire ou en équilibre, ce qui est extrêmement rare finalement, hein, à part quelques pays de forte croissance, très forte croissance en Asie par exemple, mais en Europe, des pays avec des budgets excédentaires, c'est extrêmement rare. Donc lorsque le budget d'un pays est en déficit, les objectifs de moyen terme de déficit sont assignés aux États.
Attends, faut qu'on répète ça pour les auditeurs.
Ouais. Donc, lorsqu'un budget d'un pays est en déficit, des objectifs de moyen terme, donc de retour à l'équilibre, oui. Sont assignés aux États. Donc c'est écrit texto dans le pacte. Hein.
Comme pour la Grèce en fin de compte.
Pareil, sauf que là c'est institutionnalisé.
Okay,
c'est entré si possible dans les constitutions des États, parce qu'il faudra traduire ce pacte dans les constitutions nationales. Ou à travers, si c'est pas la Constitution, c'est des lois étatiques qui font que ce sera appliqué de façon inéluctable par les gouvernements futurs.
Et c'est là où on sent toute la problématique avec le référendum, la consultation du peuple, faire voter des lois au sein de la Constitution sans demander au peuple, c'est antidémocratique.
Voilà, hein. Voilà. Ouais, ouais. On peut le dire comme ça, oui. Alors dans tous les cas, aujourd'hui, l'exigence qui est dans le pacte, c'est que le déficit structurel ne doit pas excéder 0,5% du PIB, ce qui est extrêmement faible. Aujourd'hui, on est à un déficit de 3-4% régulièrement, voire plus. Alors quand on dit déficit structurel, c'est la partie, on va dire, qui n'est pas liée aux fluctuations croissance plus ou moins importantes en termes de croissance du PIB. Donc il y a un déficit qui est conjoncturel, on va dire, et celui-ci étant soustrait, il reste le déficit structurel. Et donc, il comprend en général bah, le financement des collectivités locales, le financement
de
l'État régalien, de la couverture sociale, voilà. Des écoles, etc., des hôpitaux et tout.
Interventionnisme.
Donc, il y a aussi un calendrier de convergence vers l'objectif qui sera assigné aux États. Donc, c'est un mécanisme de correction automatique, finalement. Donc ça c'est important à noter, hein. C'est les points les plus durs il nous semble.
Je rappelle juste aux auditeurs que si l'émission est trop compliquée ou si vous avez des questions, on peut essayer d'y répondre en appelant au 05 34 33 60 09, passer un message ou même poser des questions donc sur cette problématique du pacte budgétaire. N'hésitez pas à appeler, on est en direct sur Campus FM 94.
Voilà. Alors, lorsqu'un État fait l'objet en effet de ce procédure de déficit excessif, il doit mettre en place un programme de partenariat budgétaire et économique, détaillant les réformes qu'il s'engage à mener, etc. Et c'est présenté pour accord au Conseil de l'Union européenne et à la Commission. Donc c'est présenté pour accord. Donc c'est fabuleux. Et qui en contrôle la mise en œuvre. Donc l'Europe contrôle la mise en œuvre. Voilà. Donc finalement, c'est ce qu'on peut dire qui est important, c'est un genre de superstructure européenne hein, qui aura des pouvoirs étendus sur les États en termes de contrôle économique et budgétaire.
Tout ça donc pour assurer encore une fois le système économique tel qu'il est aujourd'hui, qui donc répond aux logiques du marché, des bourses,
tout à fait.
Et des fluctuations financières.
Cette superstructure, c'est un petit peu et son pouvoir, c'est un petit peu la contrepartie d'un, alors on va pas dire de fédéralisme des déficits, mais presque, parce qu'on n'est pas encore aux eurobonds, mais on va dans cette direction-là.
J'en profite rapidement pour rappeler qu'il y a un super reportage en ce moment sur Arte sur Goldman Sachs, cette banque qui aujourd'hui contrôle le monde, avec parmi donc les têtes les plus historiques de cette banque new-yorkaise, des personnes qui font partie de la Banque Centrale Européenne ou du gouvernement italien et grec. Voilà, je le rappelle juste pour faire un petit lien avec ce qu'on est en train de dire et le pacte budgétaire européen. Voilà Jean-Michel.
Voilà, alors en termes de ratification, en gros, enfin aujourd'hui il y a 12 États, alors j'ai pas les derniers chiffres peut-être, hein, mais je pense en juillet c'était 11 États l'avaient ratifié, et si 12 États l'ont ratifié, le traité devient applicable à ces 12 États. Et ensuite chaque État qui le ratifie bah, s'ajoute aux 12 premiers et c'est applicable chez lui également. Il devrait être donc entré en vigueur au 1er janvier 2013 pour l'État qui l'auront ratifié, s'ils sont 12, ce qui est probable.
On fait une pause musicale.
C'est une bonne idée.
Ouais, on va écouter Fat Man. Donc à tous ces gourmands obèses de la finance à tout prix prêts à impliquer les peuples dans des logiques d'austérité, tout ça pour se renflouer. Voilà, donc en ce moment, les étudiants courent pour faire leur rentrée, remplir leur cartable. D'un autre côté, on compare nos marques de bronzage pour savoir qui est allé le plus loin en vacances. Et en parallèle de ça, on en parle donc lors de cette émission, on est en train de voter un pacte budgétaire qui va donc, je l'espère pas, en tout cas, obliger les peuples à vivre selon des conditions économiques qui sont pas les leurs. On écoute Fat Man, c'est Jero Tool, un super groupe, je sais pas, pop, rock, soul, funk, ce que vous voulez, et on revient après ça.
À tout de suite. We'll be right back.
not the patience to ignore all that. Hate to admit to myself, I thought my problems came from being fat. Won't waste my time feeling sorry for him.
Donc on écoutait Jethro Tull à l'ancienne et on va laisser donc le vinyle, car c'est un vinyle qui tourne, pour laisser donc place à un titre en arrière-fond qui s'appelle Living in the Past, pour tous ceux qui vivent encore dans le passé et qui pensent que le capitalisme est la solution éternelle aux problèmes des peuples et aux problèmes notamment financiers et matériels. On revient donc sur la problématique donc du pacte budgétaire financier européen et on en parle avec Jean-Michel Dattac.
Exactement. Alors, pourquoi défendre le pacte de croissance, le pacte budgétaire ? Donc, je voulais donner quelques éléments hein, qui sont émis par les défenseurs de cette ratification. Bah, le principal, c'est que c'est soutenir l'intégration économique et politique plus poussée en Europe, ceci avec le souci affiché, enfin, tel qu'il est promu, de la compétitivité des États membres. Alors, quand on dit compétitivité, c'est compétitivité dans un environnement évidemment libéral, voire ultralibéral mondial. Donc compétitivité contre la Chine, contre les pays en développement, etc., etc. Alors ça signifie un certain nombre de choses, intégration économique et politique, ça signifie notamment un cadre financier intégré, un cadre budgétaire des États intégré, donc piloté au niveau européen, et un cadre de la politique économique intégrée également, avec un renforcement, alors d'après ce qui est exprimé par les défenseurs du pacte, un renforcement de la légitimité démocratique. Donc c'est un des éléments que nous on comprend pas hein, clairement, puisqu'il s'agit de monter d'un échelon au niveau européen sans passer par la voie démocratique, mais uniquement en arrogeant à des gens qui sont pas élus ou des gens qui ne sont pas élus pour ça de nouveaux droits au niveau européen.
Ça nous rappelle un peu le traité européen en fait.
Oui, c'est le même esprit en effet.
C'est le même esprit, sauf que là c'est économique quoi.
Tout à fait. Alors un point qui est mentionné comme un pas en avant, c'est l'union bancaire. La déclaration du sommet de la zone euro introduit le principe d'un mécanisme de surveillance unique de l'ensemble des banques de la zone euro. Donc ça, c'est ce sera un bon point. Mais maintenant, surveillance comment, par qui, et on risque de se heurter aussi à peut-être des freins, notamment des pays de l'Angleterre et puis des Pays-Bas peut-être aussi, pour que cette partie du pacte soit effectivement pas tellement mise en avant ou pas tellement mise en œuvre. Il y a un point également que dans le mécanisme européen de stabilité, il s'est vu doté de la possibilité de recapitaliser directement les banques sans passer par les États membres. Donc c'est pas ce qui se fait aujourd'hui, hein, mais ce serait une capacité future. Pour nous, c'est pas forcément un bon point hein, d'ailleurs. Hein. Voilà. Dernier point peut-être qui est intéressant, c'est que les États européens ont adopté un pacte pour la croissance et pour l'emploi qui prévoit notamment un paquet de 120 milliards d'euros dédié à des projets économiques concrets, donc soi-disant pour financer la transition énergétique et autres. Mais ces 120 milliards représentent finalement moins de 1% du PIB européen, et on pense qu'en termes macroéconomiques, ce montant-là n'est pas du tout en capacité d'avoir aucune altération, aucun effet significatif sur la croissance de la zone et le contrôle des dégâts que va faire par contre la forte récession que va entériner la maîtrise budgétaire telle qu'elle est proposée.
Voilà, donc pour les auditeurs qui débarquent ou qui écoutent l'émission depuis le début, si on devait simplifier et rappeler en quoi cela est problématique pour le quotidien des citoyens, en quoi en fait ce pacte budgétaire est...
bah, c'est très simple finalement aujourd'hui, les États pour financer leur fonction régalienne, hein, que sont l'armée, la police, les pompiers, etc., plus les écoles, plus les collectivités territoriales, plus les hôpitaux, etc., ils ont besoin d'un certain volume d'argent. Donc ça, c'est des dépenses. En face, il y a des recettes qui sont issues de la TVA, des prélèvements fiscaux à travers les impôts, etc., et l'impôt sur les individus et sur les sociétés. Bah, aujourd'hui, ça c'est les recettes. Bah, aujourd'hui, l'écart, enfin la balance entre les déficits et les recettes, enfin pardon, entre les dépenses et les recettes, conduit à un déficit important entre 2, 3, 4, 5%, qui conduit à des endettements permanents des États. Donc en gros, la France, on est entre 80%, je crois, 80% du PIB.
Plus de 3%, je
dirais. Par an. Oui. Mais la dette cumulée, elle est autour de 80% du PIB. Ah, oui. L'Allemagne, ils sont à 60. La Grèce, ils sont à 150. Je ne sais plus. Enfin, c'est des chiffres énormes. Hein.
Et donc, pour résoudre donc là, cette balance...
Enfin, ça, aujourd'hui, on a... Cet endettement est dû, finalement, à une réduction des recettes. Parce que politique du gouvernement précédent, notamment... a conduit à une réduction des impôts, notamment sur les plus riches et sur les sociétés. Donc réduction des recettes. On a maintenu quasiment les dépenses, parce que même en réduisant le nombre d'instituteurs, même en réduisant les infirmières dans les hôpitaux, etc., la dépense a été quasiment inchangée. Donc c'est une dépense structurelle du fonctionnement de l'État, conduit à un déficit de 3-4% chaque année.
Malgré la réduction des
salaires, etc. Exactement. D'accord. Et ça, on doit passer de 3 ou 4% à 0,5. Donc l'impact va être énorme. L'impact va être énorme, évidemment.
C'est possible, ça, franchement, honnêtement.
Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas.
Ça voudrait dire qu'il n'y a plus d'hôpitaux, il n'y a plus d'écoles, il n'y a plus de...
Sans aller jusque-là, mais on s'oriente vers probablement une approche plutôt ce qui est fait en Angleterre, avec beaucoup moins de moyens au niveau des entreprises d'État et privatisation d'un certain nombre de choses. Et puis ouvrir le champ peut-être à tout ce qui est au privé, et puis aussi aux organisations caritatives, quoi. Donc à la misère, comme on peut le voir en Angleterre ou dans pas mal de pays en difficulté, comme la Grèce aujourd'hui. Donc voilà. Donc l'impact pour les citoyens va être assez rapide et important.
Ouais, en gros, le pacte budgétaire, il oblige en fait aux citoyens de subir. Cette dette publique qu'on doit rembourser, par exemple, ou
Voilà, donc il y a deux options pour arriver au 0,5% de déficit. Soit on réduit les dépenses, donc c'est ce dont je venais de parler, ce qui est finalement la voie faisable, enfin, donc on s'est maîtrisé tout de suite. Soit augmenter les recettes. Donc le gouvernement socialiste a prévu d'augmenter un centre de recettes par augmentation des impôts, mais on va pas aller très loin. Soit augmentation des recettes à travers l'augmentation, la relance de la productivité, de la production, de la croissance, etc., du PIB. Aujourd'hui, on sait qu'on est en Europe dans une économie pas en récession, mais en contraction, du fait de la raréfaction des matières premières, d'un accès plus difficile, hein, parce que les pays émergents, évidemment, ils ont leur part à prendre dans les matières premières au niveau, que ce soit le pétrole, mais pas que l'énergie, hein, aussi les matières premières pour faire des iPhones, etc. Mmh. Donc, difficulté d'accès aux matières premières, donc renchérissement de ces matières premières, également difficulté d'exportation, parce que tous ces pays deviennent plus autonomes, hein, par rapport à ce que c'était il y a 20, 30 ou 40 ans. Et donc, on a une économie européenne en contraction et avec une forte compétition entre les pays européens eux-mêmes. Hein, la France est le premier partenaire économique de l'Allemagne. Donc, l'Allemagne va bien, mais ça veut dire qu'en effet, la France, son économie s'est dégradée. Mmh. Donc, on travaille ensemble, mais aussi en compétition. Donc, la croissance du PIB, c'est pas quelque chose qu'on sait maîtriser facilement. La croissance des dépenses avec l'augmentation des impôts, c'est une option, mais je suis pas sûr que le gouvernement actuel veuille aller très loin. Donc, il reste la maîtrise des dépenses, avec des impacts sur les gens de façon très importante, probablement.
Lors des universités d'attaque de Toulouse, on a parlé justement de ce pacte budgétaire et on disait, bon, là, en fait, c'est un peu perdu d'avance, quoi. On ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas empêcher donc, son application. C'est quoi les prochaines étapes donc, pour attaque, pour aller contre ce pacte budgétaire?
Alors peut-être on en parlera à la fin, parce D'accord. que dans l'agenda du mois de septembre, il y a un certain nombre de choses, D'accord. je vais D'accord. y venir. Juste pour finir sur la partie... pourquoi défendre la ratification, hein, finalement. Pour faire très court, les défenseurs du pacte, pour eux, il s'agit de renforcer le pilotage économique au niveau de l'entité européenne, clairement. Donc, les États ont démontré qu'ils n'étaient pas en mesure d'avoir le courage de faire ce qu'il fallait, donc on va le faire au niveau supérieur, au niveau au-dessus. Et c'est une contrepartie avec, une, entre guillemets, partage des risques au niveau des déficits et des dettes. Très bien. Donc là, les marchés sont contents. Et ceci avec des objectifs clairs de renforcement de la compétitivité internationale de la zone. Donc ça veut dire comment rendre la France, l'Allemagne, l'Italie compétitives vis-à-vis d'autres pays comme la Chine, comme le Brésil, l'Afrique du Sud, etc. etc. Donc ça, c'est une vraie question et je ne sais pas si quelqu'un sait y répondre aujourd'hui. Réduction des dépenses publiques, libéralisation du marché du travail. Donc tout ça, c'est des ingrédients pour rendre l'économie compétitive et développement de la croissance productiviste. Donc voilà, en gros, c'est la voie proposée par les détenteurs de la ratification du pacte. Donc on va venir maintenant sur pourquoi rejeter le pacte. Donc il y a un collectif qui s'est créé il y a quelques mois, qui regroupe des associations, des mouvements sociaux, des syndicats, des partis politiques, qui rejettent le pacte et qui veut amener le président de la République et son gouvernement à prendre sa responsabilité telle qu'il avait pu les énoncer au moment des élections, c'est-à-dire de demander aux négociateurs européens de revoir ce pacte-là. Mmh. Voilà. Donc peut-être, on peut dire deux mots de leur position à eux, hein, pourquoi refuser le pacte. D'abord, on pense que ce pacte-là, et notamment la réduction à 0,5% du déficit structurel, ça va ajouter de l'austérité à l'austérité actuelle et à la crise. Donc même à droite, aujourd'hui, il y a des gens qui sont extrêmement inquiets. Ce pacte budgétaire, évidemment, il va aller dans le sens de l'aggravation des politiques néolibérales, qui sont jugées comme, enfin, en tout cas, par les mouvements sociaux et les partis de gauche, comme étant celles qui ont créé finalement la crise telle qu'on la vit aujourd'hui, qui en sont la source. On en a parlé un petit peu, mais en effet, ça va mettre en difficulté la réduction à 0,5% du déficit, donc des dépenses publiques, ça va mettre en difficulté toute la protection sociale, les retraites, les services publics, on ne pourra pas réduire les inégalités sociales, ni les inégalités hommes-femmes, etc.
Comme c'était promis d'ailleurs, c'est les points qui sont mis en avant par le gouvernement, la réduction entre les inégalités hommes-femmes, l'éducation, un gros volet sur l'éducation.
Exactement. Donc on voit probablement, dans le court terme au moins, vers une régression, quoi, une régression sociale importante. Donc il y a aussi un point dont on n'a pas parlé qui est l'aspect court terme et l'aspect long terme. Probablement que l'aspect court terme, ça sera une récession importante, une régression importante parce que comme on l'a vu, le levier le plus simple sur lequel jouer, c'est les dépenses. Avec du chômage à la clé et plein de choses, donc et des difficultés sociales. Sur le long terme, on peut rêver, on peut se dire, ça va nous rendre compétitifs et nous redonner de l'air pour faire de la croissance, de l'exportation, etc. Mais à mon avis, ça c'est un rêve. Enfin, c'est mon avis personnel. Après, on est là pour faire un débat, mais sur le long terme, rien ne garantit que la zone euro puisse retrouver le plein emploi, retrouver un niveau d'éducation élevé par des dépenses publiques aussi basses et des capacités d'exportation dans le monde qui nous permettrait d'avoir des rentrées fiscales suffisantes.
En plus, c'est complètement antinomique avec les fondements idéologiques du Parti Socialiste, en fait, qui est au pouvoir en ce moment. Sacrifier donc le public, en fait, la couverture sociale et tout ce qui est lié donc aux droits sociaux pour tout ce qui appartient au privé, à l'économique et au tout marchand, comment c'est possible en fait qu'un tel gouvernement revienne sur ses pas? Comment c'est possible en fait qu'avec...
Ils essayent de ménager la chèvre et le chou, hein, c'est-à-dire qu'ils font pas le pas de la non-ratification et de mettre un peu les pieds dans le plat et de dire il faut renégocier l'ensemble et en sort peut-être d'une approche ultralibérale et d'une économie totalement ouverte en concurrence internationale et en concurrence au niveau en interne européen entre nous. Donc ils refusent de faire ce choix-là, qui est un choix avec des risques en effet, hein, politiques, etc. Et en parallèle, ils pensent pouvoir arriver à ménager les impacts négatifs de la ratification et de cette réduction des déficits publics sur le court terme. mais on n'a pas compris comment. Enfin, on voit pas de solution finalement.
Donc, cher auditeur, vous l'aurez bien compris, en fait, cette émission n'est ni plus ni moins que l'écho du bashing qui a eu lieu pendant une semaine de François Hollande, avec un paradoxe total entre son programme présidentiel et aujourd'hui donc ses actes, notamment en ratifiant le pacte budgétaire européen. Après, l'idée, c'est une dernière question et on passe à un titre musical. Est-ce que le gouvernement actuel et le président a vraiment la possibilité de faire marche arrière? Est-ce qu'ils peuvent encore dire...
Je ne sais pas, dans la mesure où le pacte a été ratifié par 11 États déjà, un 12e probablement on va le trouver sur les 25. Maintenant, si la France, qui est un poids lourd, ne le ratifie pas, je ne sais pas quelle valeur ça donne aux autres l'ayant ratifié. Est-ce qu'ils pourront continuer à avancer sans la France et les pays qui feront le choix de suivre la non-ratification comme la France? C'est un pari à faire, je ne sais pas.
Dans le cas où la France ne ratifie pas le pacte,
ça veut dire qu'on peut continuer.
Les 12 en question donc, appliquent leur.
Ils pourront l'appliquer, donc ils auront une contrainte de 0,5% de déficit structurel. Ils auront probablement des aides facilitées au niveau européen s'ils ont des déficits pour emprunter au niveau bancaire avec des taux faibles. La France prend un risque de devoir emprunter directement sur les marchés, avec des taux d'intérêt qui sont potentiellement à la hausse, comme une punition finalement par les marchés financiers, évidemment.
Ok.
Alors, une interview de Thomas Coutreau, justement, qui est un des co-présidents d'Attaque France. D'accord. Sur le sujet, donc on pourra le passer dans un moment.
D'accord. Juste après donc ce titre musical.
Si tu veux, ouais.
Donc on écoute actuellement, enfin on va écouter Bruce Chanel. Le titre c'est Keep On. Tous ceux qui veulent continuer dans cette voie complètement folle de l'austérité, de la crise économique. En attendant, malgré toutes ces belles paroles, la réalité c'est que la bourse reste maître de l'avenir aussi bien européen au niveau économique que mondial. Donc on écoute Bruce Chanel, on revient après.
Ce passe d'ici là. Le Parlement va ratifier le pacte budgétaire absolument inchangé, tel qu'il a été signé par Nicolas Sarkozy.
Est-ce qu'il y a vraiment,
il y a six mois.
Est-ce qu'il y a vraiment un changement par rapport au programme de Hollande ? Est-ce qu'il avait été explicite ?
Hollande avait été très précis. Il avait dit « je vais renégocier le pacte budgétaire sur trois points ». Premier point, c'était le rôle de la Banque Centrale Européenne. Il faut que la Banque Centrale Européenne puisse financer directement les États et pas seulement les banques, comme elle le fait aujourd'hui. Deuxième point, c'était il faut mutualiser les dettes publiques européennes, c'est-à-dire créer des obligations européennes qui permettent de créer une solidarité des États face aux marchés financiers. Et troisième condition qui avait été posée, c'était de faire une relance économique avec des dépenses nouvelles pour la croissance au niveau européen. Alors, aucun...
Et dans ces trois conditions, il acceptait à ce moment-là des restrictions budgétaires.
Il acceptait des restrictions budgétaires au niveau national, à condition qu'elles soient compensées par un plan de relance au niveau européen. C'était extrêmement clair, hein, il l'a dit à plusieurs reprises.
Ça semblait clair à tout le monde.
Oui. Alors, nous n'étions pas d'accord avec cette orientation. Nous avons dit à plusieurs reprises, on ne peut pas relancer au niveau européen en freinant au niveau national. Ça ne marchera pas. Bon. Nous ne pensions pas non plus que les euro-obligations étaient véritablement une solution. Alors, par contre, nous pensons que changer le rôle de la Banque Centrale Européenne est absolument essentiel et il faut le faire très vite. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il avait clairement dit les conditions auxquelles il signerait ce pacte budgétaire. Aucune de ces conditions aujourd'hui n'est satisfaite, mais même n'a connu un début, ne serait-ce qu'un tout petit début de mise en œuvre. Donc là, il y a simplement une trahison de la parole donnée, une trahison des engagements électoraux.
Donc là, vous allez interpeller, d'autres acteurs vont interpeller. Pour l'instant, le gouvernement, l'État a l'air de vouloir essayer de passer en glissant, en douce un peu, en disant c'est le mois d'août, il n'y a rien de très important circuler. Il n'y a pas de réponse, il n'y a pas eu d'attaque vraie. J'ai pas entendu dans les médias en disant oh là là, c'est une trahison. Si, Mélenchon a commencé.
Oui. Non, mais là, on est encore au mois d'août, mais c'est vrai que la campagne Attaque va proposer, dans le cadre du collectif d'audit citoyen de la dette publique, à nos partenaires d'organiser une campagne qui rassemble, dans le cadre du collectif, donc il y a des syndicats, des associations, des partis politiques, et donc nous voulons monter une campagne qui se déroulera dans le courant du mois de septembre, avec l'objectif, c'est de faire une cinquantaine de réunions publiques dans 50 villes en France, avec des orateurs très divers pour expliquer le contenu de ce pacte, pour expliquer pourquoi la majorité présidentielle ne doit pas le ratifier, puisque les conditions auxquelles elle s'était engagée devant les électeurs ne sont pas remplies. Donc ce serait une trahison, un manque de respect de la parole donnée. Et puis notre objectif, c'est de convaincre une majorité de députés et de sénateurs de la majorité présidentielle de ne pas voter ce pacte budgétaire. Et en tout cas, de faire passer clairement dans l'opinion publique l'idée que ce vote du Parlement, s'il intervient, n'est pas légitime, n'engage pas véritablement le pays, parce que, encore une fois, le pays vient de voter, et pas pour ça.
Chez les députés socialistes, vous sentez qu'il pourrait y avoir un petit flottement ?
Il y a déjà plusieurs députés et sénateurs socialistes qui ont dit qu'ils ne voteraient pas ce pacte budgétaire. Bon, donc il peut y avoir, et nous souhaitons qu'il y ait un débat approfondi à l'intérieur du Parti socialiste et du groupe des groupes parlementaires socialistes. Et nous ferons tout pour que ce débat ait lieu, et en tout cas pour que les citoyens puissent le poser.
Pour revenir un petit peu donc au mode d'action d'Attaque et aux perspectives avec les audits donc citoyens sur la dette publique, est-ce que vous pensez que la masse, la population civile, est en capacité d'intégrer les fondements de la mécanique financière et de s'approprier justement ces problématiques?
Absolument, oui. Je crois que notre travail à Attaque, c'est de rendre simple ce que nos adversaires compliquent à plaisir. Hein, on essaie d'expliquer aux gens que de toute façon tout ça est beaucoup trop compliqué pour eux, qu'il ferait mieux de laisser ça aux spécialistes et que les spécialistes leur expliquent tous de toute façon qu'il n'y a rien d'autre à faire que de payer.
En réalité, c'est très simple. Nous le disions juste avec votre prédécesseur au micro, sociologue. Et est-ce que vous êtes d'accord? En fait, c'est très simple. C'est comme moi je dis parfois, c'est comme un jeu dans la cour de récréation. Tu m'attrapes, je t'attrape. C'est pratiquement l'enjeu, c'est des grosses sommes, il y a beaucoup de monde, mais c'est un jeu très simple.
Bah, c'est un jeu extrêmement simple. On a mis l'État en déficit en réduisant les impôts des riches et des grandes entreprises. Ces déficits se sont accumulés, ont formé une gigantesque dette publique. Là-dessus est arrivée une crise provoquée par l'industrie financière, par la spéculation des banques. Cette crise a encore aggravé la situation. Et maintenant, on veut faire rembourser cette dette par les populations, les salariés, les usagers de services publics qui ne sont pour rien dans l'origine de cette dette. Donc c'est quelque chose qu'on peut expliquer en des mots assez simples, avec des chiffres assez simples. On peut expliquer aujourd'hui qu'il est absolument aberrant que les États doivent payer 2, 3, 6, 8, 10% de taux d'intérêt aux banques, alors que ces mêmes banques prêtent de l'argent qu'elles ont emprunté à 0,5% à la Banque Centrale Européenne. Ça, n'importe quel citoyen, n'importe quel chômeur, est en mesure de comprendre. Ce sont des mécanismes très simples. Simplement, ils ne sont jamais ou très rarement expliqués, au contraire.
D'une certaine façon, il y a peut-être suffisamment de prise de conscience pour être près du moment où on s'aperçoit qu'on marche sur la tête et comme on disait que le roi est nu. Est-ce qu'il pourrait pas, parce qu'au fond, une chose qui est embrouillée dans un brouillard, un coup de vent, et c'est très simple. Est-ce que, alors en un mois, deux mois, est-ce qu'on pourrait créer une prise de conscience rapide, cristalliser une indignation de plus?
Non, je crois pas que c'est un rêve. Je crois que, de toute façon, la crise européenne est encore devant nous, pour l'essentiel. L'explosion de la zone euro, en tout cas, qui va commencer par probablement la sortie de la Grèce de la zone euro dans les mois qui viennent, qui semble un peu inéluctable aujourd'hui, va relancer toute une mécanique à la fois de débats politiques en Europe et puis de spéculation financière contre l'euro. Et toutes ces questions vont prendre une actualité, une acuité de plus en plus importante dans le débat public. Tous les gens vont se poser la question, pourquoi on en est arrivé là? On est encore en France dans une phase où on a l'impression que les gros nuages et les gros orages qui sont en train de ravager les pays voisins vont peut-être... on va peut-être y échapper, mais il n'y a aucune chance que nous n'y échappions, et même pas les Allemands. Les Allemands n'échapperont pas non plus à une crise économique, une crise bancaire majeure, tout simplement parce que les fondements même de la zone euro dans laquelle nous sommes tous sont des fondements qui sont en train de s'effondrer. Et donc quand les fondements de la maison s'effondrent, évidemment c'est d'abord ceux qui sont au rez-de-chaussée qui tombent dans le trou, mais ensuite ceux qui sont au premier et ceux qui sont au deuxième, ils tombent aussi.
Non. Est-ce qu'il y a une chance pour que on décale ce vote au Parlement de l'automne? Il y a un débat.
Bien sûr, tout est possible.
Est-ce que ça peut servir, par exemple, même à François Hollande pour rectifier sa ligne en disant, les opinions n'acceptent plus, par exemple.
Mais il est tout à fait possible. Je dis pas que c'est ce qui va se passer, mais il est tout à fait possible que soit il y ait une véritable mobilisation populaire en France autour de cette question dans les semaines qui viennent, soit qu'il y ait l'effondrement et la sortie rapide de la Grèce de la zone euro qui rendent obsolète ce pacte budgétaire, parce que ce pacte budgétaire il a été signé par la Grèce l'accélération de la crise que provoquerait la sortie de la zone euro peut parfaitement amener à être obligé de repousser la ratification de ce traité. Donc tout est possible, on est dans une situation extrêmement instable où nos gouvernants ne contrôlent pas du tout la situation, ne sont pas aux commandes. Et donc là, le rôle d'attaque et du mouvement social est absolument décisif. Dans des moments pareils, il peut y avoir un basculement qui peut être très rapide et dans lequel il est important que nos réflexions, nos propositions soient prêtes.
Aurélie Trouvé disait hier, il faut foutre le bordel. Peut-être c'est peut-être pas la formulation que vous employez, vous êtes plus âgée qu'elle. C'est une jeune fille. Vous allez quand même faire une campagne vive.
Je crois que le bordel, c'est pas nous qui le mettons, hein. C'est l'oligarchie qui met le bordel dans nos vies, et donc on va essayer effectivement de rendre leur vie plus difficile et d'essayer d'empêcher cette confiscation démocratique à laquelle ils sont visiblement pressés de recourir.
C'est très gentil.
Question, en fait, ça fait déjà peut-être maintenant 5-10 ans qu'on met vraiment les problématiques écologiques au devant de la scène pour dire que voilà, c'est peut-être aussi la solution pour sortir du capitalisme et du tout marchand. Face à ça, il y a quand même des échecs comme Copenhague et Rio ou Cancun encore. Est-ce que pour vous ça reste quelque chose d'important auquel il va falloir s'atteler et surtout continuer à mettre au devant de la scène cette transition énergétique, ce combat écologique?
C'est quelque chose qui non seulement est important, mais est la priorité numéro un. Ça sert à rien Ça sert à rien de lutter pour la justice sociale si les conditions de vie et de survie de l'humanité disparaissent, et c'est ce qui va se passer à moyen terme si on continue comme ça. Aujourd'hui, on ne peut que constater l'incapacité de ce qu'on appelle la communauté internationale et des États, du système des États aujourd'hui, avec cette rivalité entre les vieux pays hégémoniques et les pays émergents, avec ces désunions d'ailleurs entre les États-Unis et l'Union européenne, avec ces bisbilles et ces rivalités permanentes. Ce système des États est à bout de souffle, le système des Nations Unies est à bout de souffle. Et aujourd'hui, le renouveau et la prise en charge sérieuse de ces questions ne peut venir que d'une insurrection citoyenne mondiale. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui de se profiler avec les mouvements indignés qui posent la question de qui décide. Qui décide pour nous, non seulement au niveau national, mais dans ces instances internationales qui aujourd'hui se montrent totalement incapables de prendre en charge les vrais problèmes, les problèmes de l'humanité. Et donc c'est cette insurrection civique européenne et mondiale qui est aujourd'hui à l'ordre du jour et sur laquelle nous travaillons tous, notamment avec le réseau des attaques.
S'indigner, ça suffit à votre avis, ou il faut aller plus loin, comme à l'exemple des printemps arabes et des révolutions? Parce que beaucoup de gens qui sont déjà passés ici nous disent, bon, c'est bien de réfléchir, de concevoir, d'idéologiser, mais au bout d'un moment, il faut aussi agir. Et est-ce que pour vous, le mouvement des indignés suffit à provoquer le changement?
Non, le mouvement des indignés, ça n'est qu'un prologue. Ça n'est que les prémices, ce sont les premières manifestations, mais qui prennent déjà une échelle mondiale. C'est ça qui est absolument encourageant. C'est qu'on voit des mouvements qui fleurissent, qui éclosent dans de multiples pays où on ne les attendait pas du tout, comme Israël, comme le Québec, comme le Sénégal. Enfin, ce mouvement a des répercussions mondiales. Il n'en est qu'à ses balbutiements. Mais il traduit une aspiration qui est très profondément partagée par les populations du monde entier, même en Chine, même en Indonésie, etc., qui est l'aspiration à reprendre le contrôle de sa vie et à reprendre le contrôle de la situation sur la planète, dont on voit bien qu'il est en train d'échapper à nos États et à nos élites dirigeantes. Donc ce besoin de reprendre le contrôle de sa propre vie, il est et de la vie en commun, de reconstruire une possibilité d'agir sur la vie en commun, de reconstruire du commun, c'est ça qui est à la racine de ces mouvements citoyens qui se développent dans le monde entier, et ça n'est pas près de s'épuiser. C'est quelque chose de très profond, c'est une réaction de survie, une réaction d'autodéfense de la société face à toutes les menaces qui sont en train de la submerger.
Voilà. Donc Jean-Michel.
Oui, donc c'était Thomas Coutreau qui était en interview lors de l'Université d'été d'Attaque France à Toulouse cet été.
Co-président donc.
Co-président d'Attaque France, et donc qui présentait la position d'Attaque sur le pacte budgétaire et notamment son appel à la non-ratification par le gouvernement actuel. Donc pour rappeler, aujourd'hui donc ATTAC vient de signer une déclaration du collectif contre le pacte budgétaire qui s'appelle « Non à l'austérité permanente, refusons le pacte budgétaire, ouvrons le débat en Europe ». Donc c'est une déclaration qui a été signée il y a quelques jours par de nombreux partis politiques, des fondations, des associations, des mouvements sociaux, des syndicats également. Et maintenant s'engage un mois de septembre jusqu'au 30 jours où il y aura une grande manifestation unitaire à Paris par renforcer les collectifs locaux qui existent déjà, notamment ceux qui étaient actifs pour l'audit citoyen de la dette publique, l'organisation d'une série de débats publics dans toute la France, également s'adresser à nos élus, que ce soit des députés ou nos sénateurs, alors les organisations mais aussi les citoyens, pour leur rappeler nos positions sur ce pacte, les conséquences probables et les solliciter pour connaître leur position. Et
on fait un résumé rapide. Donc le pacte budgétaire ratifié ou non ratifié, c'était la question de cette émission.
C'est la question de départ, en effet.
Et oui, et donc on en est arrivé à la conclusion, selon donc le collectif ATTAC, de la non ratification pour plusieurs raisons, donc notamment une évoquée, c'est un peu l'acte non démocratique en fait, c'est le fait de passer au-dessus de la consultation du peuple et d'imposer le système financier libéral.
Il y a essentiellement trois choses. C'est prendre en défaut la démocratie aujourd'hui en créant une superstructure non élue pour piloter la politique budgétaire et économique des États, mmh. c'est maintenir l'intégration ultralibérale des États dans l'Europe et dans le reste du monde. C'est rater la transition sociale et écologique de l'Europe en interne Europe, mais aussi avec le reste du monde. Et c'est enclencher un processus de régression sociale et économique probablement important, sans garantie pour autant d'atteindre une espèce de croissance qui reste un point ultime à atteindre, mais dont on ne voit pas finalement l'intérêt.
Et puis moi je rajouterais, mais bon, c'est pas un point en soi, mais quand on voit, comme le rappelait donc Thomas Coutreau, le fait que la Grèce ait ratifié le pacte et qu'au final elle est en train de se poser la question d'y rester ou pas au sein de cette Europe et d'en sortir, c'est bien la preuve que...
Mais la Grèce est un petit peu l'exemple en amont de ce qui risque de se passer un peu partout, y compris dans les pays qui vont plutôt bien aujourd'hui, hein. Parce qu'à un moment donné, si l'économie en France, parce qu'on ratifie le pacte, qu'on a 0,5% de déficit budgétaire imposé, donc on fait des réductions drastiques dans les dépenses sociales et les dépenses d'éducation, de santé, etc., l'Allemagne devra bien vendre ses produits et son exportation à quelqu'un, donc ce ne sera pas la France. Donc l'Allemagne ira mal plus tard. Donc c'est ce qu'on essaye d'éviter. Bon, après on avait une interview de Geneviève Azam sur la transition, mais il ne nous reste plus que peut-être un peu, elle fait 7 minutes, je ne sais pas si on a le temps de la passer.
On va y caler un bout et puis
sur quelles sont les autres options finalement qu'on proposerait. Alors c'est une vision plus long terme, une vision où on remet à plat plus de choses, mais au moins on partage un projet commun en Europe qui est important de développer ensemble, et ce serait une introduction vers d'autres rendez-vous qu'on aura à Florence au mois de novembre pour créer des convergences avec les mouvements sociaux, les partis, les syndicats au niveau européen et préparer le forum social de Tunis au mois de mars au niveau international.
En tout cas, voilà, moi, avec ma vision, je vois juste qu'on est en train de mettre en place des dirigeants de banques privées au sein de la Banque Centrale Européenne, par exemple, et que c'est eux qui vont décider des lois économiques à appliquer à l'échelle des pays. Et ça, c'est juste... C'est juste aberrant, quoi. Donc, il voilà. Y a de quoi se révolter, et j'espère que vous l'entendez, le message. On va donc écouter l'interview de Geneviève Azam.
Voilà, qui est membre du conseil scientifique d'Attac, hein, qui est économiste.
D'accord. Et on revient normalement après ça pour vous donner l'agenda, c'est ça, Jean-Michel?
Ça va être juste. Il nous restera 6 minutes. On va faire très court. On fera un petit agenda court pour finir. Ouais.
D'accord. Allez, on revient après ça.
Attac, qui sont ici présents. Alors, l'exemple que vient de donner Pablo sur la crise alimentaire nous paraît extrêmement important parce que là, on voit comment convergent les différentes crises. Crise financière, crise écologique, crise productive, hein, d'un modèle finalement de production, d'un modèle de développement. Et c'est bien notre analyse de la crise que nous développons depuis plusieurs années sur la globalité de la crise et l'intrication des différentes crises sur lesquelles nous travaillons depuis plusieurs années et qui est au cœur vraiment de cette université. Mais pour cette année, nous voulons aller plus loin. Parce que sans doute, nous vivons un moment de basculement du monde. Et en même temps que toutes ces contradictions deviennent de plus en plus importantes, que la souffrance sociale, la souffrance de la Terre aussi, de la planète, s'accélère, en même temps, des résistances extrêmement importantes se construisent et des alternatives se cherchent. C'est pourquoi nous avons parlé de détransition. Nous avons voulu signifier qu'il n'y a pas un seul chemin de la transition. Il y a plusieurs voies de la transition. Le monde est complexe. Contrairement à ce que nous dit la pensée néolibérale, le monde est divers, il est complexe, il est inégal. Et donc il s'agit bien de transition au pluriel, avec des voies diverses et différenciées selon les pays. Et nous avons voulu vraiment la présence dans cette université de représentants des grands mouvements qui ont émergé depuis quelques années. Je pense en particulier au mouvement des indignés, qui sont présents ici, bien sûr, avec notamment aussi la présence d'Attac Espagne qui est engagée dans les travaux de cette université, qui nous parlera du mouvement des Indignados en Espagne, du mouvement d'Occupy Wall Street, dont nous avons des représentants ici. Et enfin, je veux dire un mot tout particulier sur tout ce qui s'est passé dans les révolutions arabes, hein, avec des représentants ici du mouvement tunisien. Donc tous ces nouveaux mouvements qui s'affrontent à ces différentes crises et qui ont mis en avant quelque chose auquel nous voulons, vraiment sur lequel nous voulons aussi nous focaliser à Attac, c'est la question de la démocratie. Nous savons qu'il n'y pourra pas y avoir de transition écologique, sociale, sans véritablement une réappropriation démocratique par les peuples, au plus près des peuples, au plus près des questions concrètes que vivent les peuples, qu'il ne pourra pas y avoir de véritable transition sans cette révolution démocratique que dont ces nouveaux mouvements sont porteurs. Aujourd'hui, le capitalisme, dans toutes ses dimensions, s'avère contradictoire avec la démocratie. Sa poursuite n'est plus compatible avec la démocratie. Bien sûr qu'il peut se poursuivre encore. Il n'y a pas de fin programmée du capitalisme. Mais nous voyons que la poursuite de ce modèle-là à l'échelle du monde suppose la privation de la démocratie pour les peuples. Nous le voyons bien sûr en Europe. Nous le voyons aussi partout au niveau des négociations internationales. Nous l'avons vu plus récemment à Rio+20, où les négociations internationales ont été capturées par des intérêts privés, par des transnationales, par les fonds financiers, etc. Donc le sens de cette université, vraiment, c'est comment, au niveau des peuples, on peut se réapproprier nos conditions d'existence et comment nous construisons les transitions. Alors bien sûr, la situation est sombre parce que ce sont les éléments vitaux qui sont des sociétés qui sont touchées aujourd'hui. Nous sommes d'accord qu'il faut lancer sans doute une campagne internationale sur les questions.
Voilà, donc c'était Geneviève Azam, donc, qui était interviewée lors de l'université d'été d'Attac France cet été au mois d'août. Elle présente un certain nombre d'ouvertures en termes de comment lancer des transitions, lancer une réflexion au niveau européen, lancer une réflexion également au niveau international, parce que ces transitions écologiques, ces transitions sociales, ces transitions des modes de production et de consommation doivent être évidemment faites au niveau national, mais surtout au niveau européen et avec nos partenaires économiques dans le monde. Donc voilà. Pour conclure, finalement, rappeler que donc Attac s'engage dans le collectif contre la ratification du pacte budgétaire, qui aura des réunions tous les mercredis pour coordonner ses participations, coordonner les actions locales à Toulouse. N'hésitez pas à prendre contact avec nous, à venir nous rejoindre le quoi échéant. Possibilité également de rejoindre le collectif directement contre ce pacte budgétaire avec les syndicats, les mouvements sociaux et les partis politiques engagés. La prochaine émission sera le 8 octobre. On parlera des dettes publiques avec des invités qui sont des copains de la commission en crise à Attac Toulouse. Voilà. J'avais peut-être, si j'ai le temps, quelques éléments de l'agenda toulousain que je souhaitais aborder, parce qu'il y a des choses très importantes qui vont se passer également au mois de septembre. Il y a une conférence intitulée Misère de la pensée économique de Paul Jorion, qui est docteur en sciences sociales, le vendredi 14 septembre à la salle du Sénéchal, qui est organisée par l'association Associance de Midi-Pyrénées. Il y a un atelier populaire tous les mardis soirs au pavillon sauvage rue de Chaussas au Ménim, tous les mardis. Atelier populaire organisons les différentes luttes. Il y a une conférence, le revenu de base, fondement d'une société nouvelle, avec Yolande Bresson, organisée par les Amis du Monde Diplomatique et Attac, le 20 septembre à 20h30 à la salle du Sénéchal. Et enfin, il y a une conférence débat Capitalisme à l'agonie, quel avenir pour l'homo sapiens, par Gilbert Dalgalian, pour son dernier ouvrage du même nom. Ça aura lieu au Bijou, avenue du Mirail, le 25 septembre à 20h30. Voilà.
Voilà, donc rendez-vous pris, et puis sinon, vous pouvez nous retrouver de Réminiscence à Campus FM tous les lundis à 17h sur des problématiques du même ordre, hein, liées à l'économie, l'écologie et parfois un peu de philosophie, etc., etc. C'était donc La Fabrique. On vous laisse le monde tel qu'il est, hein. On vous laisse le monde avec ses défauts et ses problèmes, et on se retrouve donc le 8 octobre au sein donc de cette émission
Ses rêves aussi quand même, hein.
Et ses rêves aussi,
et ses objectifs d'avenir, hein. Et portez-vous vous bien tous, à très bientôt.
Voilà, bonne rentrée à tous, à lundi prochain.